Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent en première partie « Séjour d'un pèlerin en France ». Il s'agit de lieux de pèlerinage dans la ville de Paris et je me suis rendu au Mont-Saint-Michel.
Le Seigneur soit avec vous et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, versets 46 à 50. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille, moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit, « Ne l'empêchez pas, qui n'est pas contre vous et pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis dans un petit oratoire de l'abbaye des moines de la fraternité monastique de Jérusalem. Et dans quelques heures, nous allons quitter cette île, le Mont-Saint-Michel. Nous avons passé des heures intenses, des moments où nous avons rencontré quand même plusieurs personnes, ce qui est étonnant. Nous sommes dans une abbaye, nous sommes avec des moines, des moniales, et nous avons rencontré beaucoup de personnes qui viennent en ces lieux pour boire. Dans ma cellule, il y a une phrase qui est écrite: venez à moi, vous tous qui avez soif. C'est une parole de Jésus. Je crois que le Mont-Saint-Michel est une citerne, c'est une source qui ne se tarit pas parce que la foi chrétienne a été implantée dès le premier millénaire, il y a plus de 1500 ans, avec toutes les frasques de l'histoire, cette foi chrétienne, elle est encore une lampe allumée aujourd'hui sur cette montagne. Malgré les vents contraires, malgré la pluie, malgré les bourrasques, les tempêtes, c'est la maison bâtie sur le roc, puisqu'ici, les gens viennent, les pèlerins, les croyants et toute autre personne peuvent entendre, mais il y en a qui viennent pour entendre. Ils montent sur cette montagne, sur ce mont, pour entendre la parole de Dieu, pour entendre chanter les psaumes et pour voir aussi, pour voir la liturgie, c'est-à-dire les gestes qui nous relient à ce Père que nous adorons, que nous aimons dans la puissance de l'Esprit Saint qui agit à travers nous et qui rend présent le corps du Christ, non seulement par l'assemblée qui se réunit, par les personnes qui s'y trouvent, mais aussi par le sacerdoce, le don du sacerdoce, le prêtre. L'unique prêtre, c'est Jésus, qui a appelé à sa suite des disciples à qui il a donné ses pouvoirs. Nous avons vécu avec les moines particulièrement. Et ce qui me frappe, c'est leur simplicité. Ils ont leur humanité, ils ont leur tempérament, leur caractère. Ils ont certainement, lorsqu'ils sont toujours ensemble, des manières de faire, des manières de penser, mais tout cela se conjugue dans un esprit fraternel de communion et de charité. Et ce qui me frappe, c'est de constater que ces hommes, qui sont des hommes matures, des hommes qui ont une formation intellectuelle, qui ont appris, et parfois bien avant d'entrer dans la vie monastique, qui ont eu des professions importantes, des responsabilités importantes, et ils ont choisi cette vie. Mais ce qui me frappe, c'est justement ce que l'Évangile nous révèle. C'est l'enfant en eux, c'est l'enfant par eux. Alors que les disciples qui sont avec Jésus, et Jésus les entend parler, ils parlent de leur grandeur, de leur performance, de ce qu'ils sont les uns par rapport aux autres, en termes de grandeur. Et lorsqu'on est en termes de grandeur, on est en termes de pouvoir. Alors Jésus fait appeler un petit enfant. Et il le place pour qu'il le voie. Si vous ne devenez pas comme ces petits, comme cet enfant, eh bien, le royaume va vous échapper. C'est ce que je remarque dans la vie des moines. Ils ont cette enfance, cet esprit d'enfance spirituelle qui leur permet non pas d'être des grands bébés, mais des hommes qui ont conservé l'essentiel, c'est-à-dire la dépendance positive, amoureuse envers le Père qui les a appelés à la suite de Jésus et qui les a mis ensemble. Ils ne se sont pas choisis. C'est comme nous dans nos familles. Est-ce que vous avez choisi votre famille ? Est-ce que vous avez choisi votre sœur, votre frère, votre tante? Non. Moi, je n'ai rien choisi. Le Seigneur m'a fait naître au sein d'une famille et je vis au sein de cette famille avec des personnes différentes et plus tard, dans la vie où j'entreprends le cheminement vers le sacerdoce, eh bien le Seigneur va me donner une autre famille. Et c'est cela aussi qu'il faut comprendre. D'abord, est-ce que nous restons avec ce cœur d'enfant, avec les proches? Et lorsque nous sommes placés dans une autre famille, comme les disciples avec Jésus, est-ce que nous sommes là à mesurer nos grandeurs et nos pouvoirs? Eh bien, nous devons l'avouer. Ça fait partie, je pense, des poussées de la nature humaine qui sont toujours des marées montantes. Nous sommes sur un mont où il y a les marées ici, et les gens admirent les marées. C'est un mouvement qui est admirable.
Les carnets du soir se poursuivent en ouvrant un autre volet, dans le rôle de la tante de Judas, Denise Gagnon, sous la direction de Jacques Leblanc.
La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales. Texte, Denis Veilleux. Aujourd'hui, la tante de Judas. Narration, Denise Gagnon.
C'est l'hiver. La pluie tombe et ruisselle sur les dalles près de la maison. J'aime entendre la pluie. Elle nous permet de purifier notre mémoire. C'est comme si elle dessinait pour chacun le plan de notre monde intérieur, de nos terres, nos montagnes, nos rivières et nos jardins. Elle permet de décanter, comme pour le vin, ce qui doit monter ou descendre. Oui, pendant des mois, elle m'a rendu malade cette histoire qui devait emporter mon neveu Judas. Comment comprendre ce qui s'est passé sans frémir de peur ou de peine? On ne sait pas de quel côté il faut se tourner. Tant de fois, il s'est assis ici avec moi pour me parler de son rabbi. Il fallait l'entendre, surtout voir l'extraordinaire lumière dans son regard quand il me rapportait, émerveillé, les prédications devant les foules nombreuses, les guérisons, la multiplication des pains et des poissons. Que s'est-il donc passé pour qu'après avoir suivi pendant 3 années Jésus de Nazareth, Judas soit tombé si bas? Comment peut-il avoir non seulement vendu, mais trahi son maître et ami? Je n'arrivais pas à y croire. Quelle honte pour notre famille! On a beau dire que ce sont tous des fous, des sorciers, mais quand même, les traîtres ne sont pas une sinécure pour une famille. Trahir un pire que soi, ça peut aller, mais un homme juste et bon, comme ce prophète que nous aimions tant. Après l'infamie de mon neveu, je n'ai jamais été capable de revoir aucun de ses proches disciples. Pourtant, je les connaissais, surtout le gentil Thaddée. Quel bon garçon! Il était le compagnon de mission de Judas. Mon neveu est venu un jour me le présenter. Les deux étaient si heureux qu'à leur parole des gens guérissent et les possédés soient enfin délivrés. Ce n'était pas rien, vous savez. C'était du grand. Comme seul le Tout-Puissant peut le faire. Ils obéissaient religieusement à tout ce que le rabbi Jésus leur donnait comme consigne. Ils allaient de par les routes, pauvrement, demandant le gîte ou le repas. Et quand on leur refusait l'entrée d'une ville ou d'une maison, ils avaient, sans rien dire, une telle façon de faire que tout le monde comprenait. Par exemple, ils frappaient des mains leurs 2 sandales, et la poussière parlait d'elle-même. Thaddée m'a rapporté que Judas offrait son pain dès qu'il croisait un affamé. C'est ainsi qu'ils avaient souvent dû partager le peu qui restait dans leur sac. Cela les rendait heureux, autant que d'avoir été choisis par le rabbi qu'ils vénéraient. Je dirais même qu'ils seraient morts pour lui. Je n'exagère pas. Cela vous explique la honte qui m'a rendu malade. Depuis la trahison de Judas, j'évitais de sortir. Puis un jour, j'ai entendu dire qu'un certain Matthias avait pris la relève de mon neveu. J'ai tout de suite voulu connaître le nouveau désigné, mais on m'a dit qu'il était parti pour Antioche avec un dénommé Barnabé. Ce n'était pas à la porte, mais pour retrouver la paix. J'y suis montée, désireuse de rencontrer celui qui avait remplacé mon neveu. Je l'ai vu un matin après le lever du soleil. Il revenait de la synagogue et venait juste de terminer son entretien avec un nouveau venu qui se faisait appeler Paul. J'avais souvent entendu parler de ce dernier. Ce qu'on en disait n'était pas très bon. Il semblait incroyable à plusieurs qu'il se soit converti à Jésus après avoir maltraité ceux qui croyaient en lui. Certains l'avaient vu assister, tout enthousiaste et content, à la lapidation d'un disciple. C'est ce qu'on racontait. Par conséquent, les gens s'en méfiaient, et moi, la première. Après l'histoire de Judas, Matthias ne devait-il pas se tenir sur ses gardes? Je trouvais louche le revirement de ce Paul. J'avais toutes les raisons du monde de penser ainsi. Toujours est-il que ce matin-là, mû par la conviction que je devais mettre Matthias en garde, j'étais parti à sa recherche. Deux disciples m'ont conduite à lui. Tout de suite, l'homme m'a inspiré confiance. Il a dû sentir ma détresse, car il m'a regardé avec une telle douceur que je me suis mise à pleurer. Il m'a attiré contre son cœur et a eu pour moi quelques mots de réconfort. Puis il m'a amené à l'écart, comme le faisait souvent Jésus, Judas me l'avait déjà dit, et m'a demandé d'où je venais. Je lui ai révélé la vérité, que j'étais la tante de Judas. Là, Matthias s'est redressé, comme quelqu'un qui sent que quelque chose d'important va se passer. Je lui ai confié la peine et le remords que je vivais depuis que j'avais appris la trahison de mon neveu. Je lui ai parlé de lui, en rappelant combien il aimait le maître et de mon incompréhension qu'il ait trahi et vendu. Tout cela est sorti rapidement de mon cœur blessé, et je pleurais toujours. Puis, entre nous, il y a eu un long silence, jusqu'à ce que l'autre, l'étrange Saul, arrive tout à coup pour le presser de venir auprès d'un malade. Matthias a répondu qu'il le ferait, mais que pour le moment, il était déjà auprès d'un malade. De toute évidence, Saul a compris, puisqu'il s'est retiré discrètement, sans insister. Matthias a voulu en savoir plus sur moi, mon nom, celui de mon mari, si j'avais des enfants, où ils vivaient. Il m'a ensuite pris les mains et m'a regardé droit dans les yeux en me racontant une parabole. Je me souviens seulement de la phrase de la fin. La souffrance est un grand bateau dans lequel plusieurs pouvaient trouver leur refuge. Là encore, je n'ai pas vraiment compris, mais les mots me sont restés. Il m'a dit ensuite que même les plus grands naufragés pouvaient être sur les flots de la souffrance avant de se montrer plus clair. Dieu laisse sur la terre la porte ouverte à espérer le salut pour tous. Judas a gravement fauté, Dieu le sait, nous le savons aussi. Ta souffrance est un cri, celui du pardon que tu adresses pour celui qui est parti vers son destin. Va en paix, et désormais, prends dans ta barque tous les exclus, en commençant par ton neveu. Ta barque se remplira chaque jour, et la prière sera ta voile. Comme Matthias semblait vouloir terminer notre entretien, j'ai tenté de le retenir et je lui ai répliqué que tout ce qui s'était passé ne pouvait s'effacer comme ça, par enchantement. Il m'a répondu « Non, ces choses-là ébranlent le ciel. C'est pourquoi tu dois laisser le vent de Dieu tendre la voile. Ce n'est pas nous qui créons les rives et leurs ports. Cette fois, le message avait passé. J'ai donc laissé Mathias partir auprès de l'autre malade. » Son enseignement n'a pas guéri ma douleur, mais a fait disparaître les remords. Chaque jour, qu'il le veuille ou non, ma barque se remplit désormais d'exclus. Ma voile se tend par ma prière souffrante. Parfois, je pleure longtemps. Puis, au bout de mes larmes, je reste comme maintenant, à écouter la pluie et ma mémoire décante le meilleur et le pire. Et l'homme appelé Sol, quand je suis restée seule après le départ de Mathias à Antioche, il est venu me trouver. Je n'osais parler, revoyant dans mon esprit ce que mon neveu avait fait. Il a eu pour moi une seule phrase. « Sa grâce te suffit ». Il me parlait de Jésus, c'était clair pour moi. J'ai senti alors mon cœur changer de sentiment envers lui. La confiance remplaçait le doute. À Antioche, on les appelle chrétiens. Ici, on parle des adeptes de la voie. Je vais régulièrement à leur réunion dans mon village, et le moment que j'aime le plus, c'est quand nous faisons mémoire de lui. Ensemble, nous mangeons le pain qui est son corps et nous buvons le vin qui est son sang à la même coupe. Depuis, je suis heureuse, car je vis avec les autres comme dans sa barque, avec lui.
Vous venez d'entendre La tente de Judas, la 10e d'une série de 13 émissions intitulée « La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales », texte et musique, Denis Veilleux, narration, Denise Gagnon, à la technique, Yannick Caron, réalisation, Jacques Leblanc.